Chapitre 35. Il est 8 heures du matin lorsque Yuna entre dans la salle d'interrogatoire où celle qui se fait appeler Jezebel l'attend, accompagnée d'un agent de l'administration pénitentiaire. Elle a été identifiée comme étant Jenny Gillenkrantz, 52 ans, célibataire, sans enfant, habitant une petite maison à Norrköping et membre du conseil municipal. Yuna salue l'agent pénitentiaire et s'assied face à elle. Une écharpe immobilise son épaule cassée. Elle n'est pas maquillée et ses joues sont marquées de profonds sillons. Ses cheveux blonds sont détachés et elle est vêtue de l'ample uniforme des détenus. Yuna vient d'avoir Erickson au téléphone et a appris que la voiture de Jenny, une Lexus vieille de 5 ans, correspondait aux traces de pneus retrouvées dans le camping où a eu lieu le premier meurtre, ce qui leur a permis d'obtenir une analyse prioritaire du cheveu. « Comment va votre épaule ?» demande-t-il.
« Ça fait un peu mal, »
répond-elle sans le regarder. « On vous a donné des antidouleurs ?»«
Ça va. »
« Vous voulez qu'une infirmière vienne ?»«
Pas besoin. »
« Vous n'avez qu'à demander. » »«
Merci. »
murmure Jenny en ajustant la manche de son pull. Stina Linton entre, les salue et s'assied à côté de Yuna.
On commence ?
Demande-t-il. Stina passe rapidement en revue les formalités habituelles de l'interrogatoire, explique le déroulement de la procédure, les droits et obligations de Jenny et l'informe que l'entretien est filmé. Vous êtes suspecté de tentative de meurtre, de vol aggravé, de violence et d'infraction à la législation sur les armes, commence Yuna. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler maintenant.
« D'accord, »
répond Jenny avec un froncement de sourcils. « Vous savez ce que je vais vous demander ?» Elle secoue la tête sans le regarder. « Nous avons des raisons de croire que vous vous trouviez au club de tennis d'Edsviken, le 27 novembre, à 22 h. »«
Est-ce exact ?»«
Non. » »«
Nous avons aussi des raisons de croire que vous vous trouviez au camping de Bredeng, le 26 novembre, à 2 h du matin. » Est-ce exact?
Je ne sais pas.
Pouvez-vous expliquer, avec vos propres mots, ce que vous comptiez faire hier soir à l'hôtel Norort, à Vallentuna?
Vous m'avez piégé,
dit Jenny en regardant la table. Mais qu'est-ce que vous comptiez faire?
Rien. Voir un mec.
Vous vous prostituez?
Non,
répond-elle. Mais vous faites semblant.
C'est pas interdit.
Mais le vol et les violences le sont.
C'est d'acheter du sexe qui est interdit,
le coupe-t-elle en le regardant dans les yeux pour la première fois. Vous changez régulièrement d'alias, continue calmement Yuna. Mais vous utilisez toujours la même photo, celle d'une jeune femme. Vous, quand vous aviez une 20aine d'années.
21.
Dit-elle sans pouvoir cacher sa surprise. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle baisse les yeux, prend une inspiration pour parler, mais aucun mot ne sort. Des larmes coulent sur ses joues. Elle s'essuie les yeux, regarde Yuna et prend une nouvelle inspiration.
J'avais 17 ans quand j'ai rencontré un Suédois via une annonce.
Commence-t-elle lentement. Il vivait à Brooklyn, venait de commencer des études d'économie. Il était intelligent, drôle, affectueux. Il m'envoyait des photos sexy, je lui en envoyais aussi, c'était excitant. Il se passait enfin quelque chose dans ma vie. Mais quand j'ai commencé à envisager un voyage à New York pour lui rendre visite, il est devenu distant. Je me suis demandé s'il avait déjà une relation. Il était trop tard quand j'ai compris que j'avais été manipulé. J'avais honte. J'avais peur. J'ai essayé de couper les ponts, mais il m'a menacé de diffuser les photos dans mon école et auprès de ma famille si je ne lui en envoyais pas d'autres. Ça ne s'arrêtait pas. Il en voulait toujours plus et toujours des pires. J'ai commencé à penser au suicide.
Mais je ne pouvais pas. Je voulais vivre. Je l'aurais pas souhaité si j'avais su ce qui allait suivre.
Elle s'interrompt et s'essuie les joues. Stina lui tend une serviette en papier. Jenny la remercie doucement, se mouche, puis continue.
Il m'a forcé à venir chez lui. Il n'était jamais allé à New York. Il vivait à une demi-heure de bus de chez moi, à Naka. C'était un vieux dégueulasse, moche et agressif. Il me contraignait à des relations sexuelles avec lui et nous filmait. Et ça a continué jusqu'à mes 19 ans. Ensuite, il m'a forcé à me prostituer. J'étais prête à mettre fin à mes jours pour lui échapper. Mais bientôt, il m'a révélé qu'il avait commencé une correspondance avec ma petite sœur. Il a dit qu'il ferait pareil avec elle si je refusais. Alors j'ai rencontré des hommes dans un appartement, à Gullmarsplein. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de moi, tant que lui était payé. Au bout de 3 ans, il a été arrêté par hasard lors d'un contrôle de police. Il s'est avéré qu'il avait manipulé un grand nombre de filles, 4 d'entre nous se prostituaient. Il a été condamné pour proxénétisme. 2 mois de prison. Moi, j'ai réclamé 10 millions de couronnes de dommages. J'en ai obtenu seulement 11 000. Et maintenant, je récupère le reste par mes propres moyens.
Elle se tait et gratte une entaille dans le bois de la table.
Donc c'est une question d'argent, demande Yuna.
Oui.
Et de haine envers les clients.
Qu'est-ce que vous croyez ?
Je crois que parfois votre haine vous submerge et que vous prenez une hache au lieu d'un tuyau en métal ou d'un couteau.
Une hache ?
Répète-t-elle en le regardant avec des yeux vagues.
Vous êtes suspecté de meurtre et vous allez être placé en détention provisoire, dit Stina Linton.
De meurtre ? Répète Jenny.
On a une correspondance entre les traces de pneus de votre voiture et celles trouvées au camping de Bredeng le 26 novembre, et on a trouvé un cheveu blond sur la scène de crime.
Mais je n'ai tué personne, pas à ma connaissance.
Le dossier va être transmis au procureur. L'audience pour la détention provisoire commencera au plus tard demain.
Le téléphone de Yuna vibre. C'est un message d'Erickson. Résultat du labo. Le cheveu blond dans la caravane ne vient pas de Jenny Gillenkrantz.
Il pose le téléphone, écran contre la table, et regarde Jenny un instant avant de continuer. Elle reste immobile, arrache une petite peau autour de son ongle, l'air triste.
Que faisiez-vous au camping de Bredeng dans la nuit du 26 novembre ? Demande calmement Yuna.
Elle pousse un profond soupir et le regarde.
Je comprends vos soupçons,
dit-elle en croisant brièvement son regard.
J'avais rendez-vous avec un client sur l'emplacement numéro 14. L'endroit était fermé pour la saison, ce qui m'arrangeait.
Vous y êtes allé, vous vous êtes garé devant les grilles, vous avez pris votre barre métallique et votre couteau, et vous vous êtes dirigé vers la caravane.
Oui.
Quelle heure était-il ?
1h05.
Continuez, dit Yuna.
Je me suis approché de la caravane. J'ai vu de la lumière à l'intérieur. J'ai pensé que le client était là, dit-elle, le regard vague.
Et ensuite ? Demande Stina. Ensuite, je me suis arrêté.
Pourquoi ?
Parce que j'ai vu un homme passer derrière la caravane.
Vous pouvez le décrire ?
Cheveux noirs, longs, je sais plus, un jean, un pull vert.
Alors qu'avez-vous fait?
Il y avait des bruits à l'intérieur, des objets brisés, et soudain du sang a éclaboussé la fenêtre, beaucoup de sang. J'ai fait demi-tour et j'ai couru aussi vite que possible. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi.
Avez-vous entendu des voix dans la caravane?
Je crois pas, non.
Pour le procès-verbal, je dois vous demander si vous êtes entré dans la caravane. Vous êtes sûr ?
Oui.
À quelle distance de la caravane étiez-vous ?
20 mètres, peut-être.
Vous alliez vous approcher, mais vous vous êtes arrêté à cause de l'homme dehors.
Oui.
Puis, il y a eu des bruits à l'intérieur.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé ?
D'abord que le client était du genre agressif et qu'il avait pété les plombs, qu'il cassait tout.
Mais vous êtes resté, dit Yuna.
Ça n'a duré que quelques secondes. Mais quand j'ai vu le sang, il y en avait beaucoup. Ça coulait sur toute la vitre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Il n'était pas seul, c'était une bagarre ou quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à penser à un crime lié au gang. Alors j'ai juste voulu m'enfuir.
Est-ce que l'homme aux cheveux longs est entré dans la caravane ?
Pas que je sache.
Avez-vous croisé quelqu'un d'autre ?
Non. Autre chose que vous avez noté ?
Je crois pas. Il y avait d'autres véhicules sur le parking.
Oui, celui du client et une autre plus loin, une vieille épave.
Quelle voiture avait le client ? Demande Yuna, bien qu'il connaisse la réponse.
Une Mercedes.
Quelle couleur ?
Argent.
Et l'autre voiture ?
Une vieille Opel cadette, avec une galerie de toit qu'on visse.
Quelle couleur ?
Bleu clair.
Vous vous souvenez de la plaque ?
Non.
Une lettre ? Un chiffre ?
Désolé.
Suédoise ?
Je sais pas.
Autre chose ?
Des dégâts, des autocollants ? Un crochet ? Je sais pas, je voulais juste partir.
Yuna se penche en avant. Vous étiez garé à côté de la Mercedes du client, face aux grilles. Vous avez donc reculé en direction de l'Opel. Vous avez dû la voir dans le rétro.
Oui.
Elle se tait, gratte à nouveau l'entaille sur la table. Avez-vous vu quelque chose dans la lumière rouge des feux arrière ?
L'Opel avait des sapins parfumés derrière le pare-brise, dit-elle en s'humectant les lèvres.
Des Wunderbaum ?
C'est ça qui était étrange, dit-elle en le regardant. Il y en avait peut-être une quinzaine, une énorme grappe.